On va commencer pour faire simple. Quel âge pour un Français, on voit tout de suite d'où ça vient. Pour un Américain, c'est pas forcément évident. Donc pourquoi quel âge?
Bah, au départ, donc oui, c'est un diminutif de Kalachnikov. Donc AK-47 peut-être pour les Américains, ça leur parlera peut-être plus. Au départ, quand c'est parti dans le délire, on va dire, d'armes de résistance, parce que c'est vrai que c'est plutôt maintenant les peuples opprimés qui utilisent cette arme-là, même si c'est un peu simpliste comme explication. Et puis après, voilà, on l'a gardé pour le symbole et pour l'effet un peu choc de ce nom-là, je pense qu'il reste toujours quand on le dit. Ça retrace assez même ce qu'on fait en ce moment dans le parti pris plus rock, plus rentre dedans. C'est toujours un nom qui nous colle bien, même si on n'est pas du tout dans le côté militariste ou quoi que ce soit. Mais ça représente bien notre côté engagé. Notre punk, hip-hop, engagé.
Alors donc, sur disque, Kalash, c'est Kuka, Jack Mess. Mm-hmm. Donc ce que j'ai entendu, c'est que vous aviez des univers musicaux assez différents au départ. Mais vous étiez amis, donc comment ça s'est fait? Il y en a un qui a poussé l'autre à faire du hip-hop, ça s'est négocié, ça s'est fait comment?
Des négociations financières. Je l'ai payé en fait. Non, c'est pas du tout ça, on n'est pas si éloigné que ça, c'est juste qu'au départ, au tout départ, on kiffe plutôt d'adolescent. Jack, tu le diras, lui, il était plus dans Hendrix, dans le rock, dans tout ça. Et moi, c'est vrai que mon premier kiff musical, ça a été le rap par Assassin, SQ, Public Enemy, des choses comme ça, NTM, bien sûr. Et voilà, et après par contre on y est venu, bah moi j'y suis venu par là, par ses premières cassettes, par cette passion pour le rap, et Jack il y est venu un peu plus tard,
mais ouais, il dort un peu ça, par Side, moi plus par le carré, par l'américain au début,
les années 90,
et après le français, et puis de toute façon à cette époque c'était tellement, un mouvement hyper, où tu pouvais pas passer à côté quoi, c'était quand même musicalement, il sortait des albums énormes chaque semaine, ça c'était la folie quoi. 90-96, tout ça c'était un peu la folie, donc voilà.
Mais on l'a pas découvert chacun de notre côté, parce que c'est vrai que c'est tout de suite, une fois que Jack s'est passionné pour ça, justement pour cette période comme il disait, début des années 90, on allait tout le temps chez lui écouter les disques, tout ça, donc ça a été une évolution ensemble dans la musique. Après même la soul, on l'a beaucoup découvert aussi ensemble, le jazz pareil, chacun se repassait un peu.
Ma femme aussi, on l'a découvert
sa
ensemble.
Sa femme, pas mal, ouais.
Mon chien.
Et alors justement, moi j'ai écouté un peu des sons et j'ai l'impression qu'entre le premier album et donc là le maxi qui arrive, y a un gros shift entre un son rap classique, on va dire, en sens ensemble de soul, de funk et tout, et puis un son plus rock avec, avec grosse guitare derrière.
Clairement.
Ça, ça vient d'où? Tu t'es restreint de foutre du rock dans le premier?
Non, pas du tout, parce que non, je pense que c'était à ce moment-là, j'étais vraiment dans la soul et tout, dans le truc-là et tout, j'étais vraiment à fond dedans. Encore maintenant, je suis encore dans ce truc-là. Et sur l'album de Kalash à venir, il y aura encore des sons un peu dans cette veine. Mais par contre, non, là où t'as raison et on est revenu, en fait, c'est qu'on est revenu en fait à. Comme chaque artiste et tout, tu te trouves, tu te cherches. Enfin, tu te cherches beaucoup dans ce que tu fais, même toi dans ce que tu fais dans ton taf en tant que journaliste, c'est pareil, tu te trouves, tu cherches des concepts, après tu te trouves et tu vois la ligne directrice vraiment où tu vas aller. Nous on l'a trouvé réellement maintenant. Tu vois, on va dire que le premier album, on y avait déjà quelque chose, mais c'était pas réellement là où on trouvait qu'on s'exprimait le mieux. Et voilà, le deuxième, là, c'est plus, nous, l'expression où on se trouve mieux, c'est dans ce mélange de soul, de rock, et surtout aussi réussir à retranscrire une énergie qu'on peut avoir sur scène et essayer de la retranscrire sur disque. C'est quelque chose que nécessairement dans le premier il n'y avait pas forcément quoi, c'était plus dans un délire.
Le premier c'était très slow quoi, très laid back dans les musiques et tout, et on a vu qu'on a construit le show, on a beaucoup travaillé pour réussir à le dynamiser tout ça, et étant donné que la scène c'est vraiment notre jardin, ce qu'on adore faire et tout ça, c'est vrai que sur le deuxième on avait envie de choses plus rentrer dedans. Il y a aussi beaucoup eu des rencontres avec des gens, que ce soit culturellement ou après avec des musiciens. Ici, il y a Lenny qui est là, qui est notre guitariste sur scène, ben voilà, ça fait partie des grosses rencontres qui font qu'après tu as encore plus envie d'aller dans cette direction-là. Donc voilà, c'est toute une évolution. C'est pour ça d'ailleurs que, comme on dit souvent, il y a eu du temps entre la fin de la tournée du premier album qui était fin 2004 et les nouveaux morceaux, parce que c'est là qu'on a cherché l'évolution, qu'on a commencé à comprendre là où on voulait aller.
Alors justement, le fait d'avoir une guitare sur scène, d'ailleurs, le guitariste peut s'exprimer aussi. En quoi ça change justement? Est-ce qu'on est habitué au show classique, genre rappeur, un backer, un girl DJ? Bon, le fait d'avoir un gratteux, qu'est-ce que ça change?
On s'entend moins bien déjà, c'est
bien. Il joue trop fort, je dis de faire jouer moins fort déjà. Non, je rigole. Non, mais ce qui apporte, c'est beaucoup plus de liberté, de musicalité. Et surtout, toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours essayer de retranscrire cette énergie qu'il y a pu avoir dans le rock ou dans le hip-hop, le côté un peu super primaire et le côté enragé, tu vois, le côté vraiment le truc, on arrive et paf, on fait péter le truc. Et je trouve que ce mélange-là, de réussir à mélanger ces deux cultures qui se ressemblent énormément, ne serait-ce que le rock dans le côté, au début, les mecs savent jouer trois accords, ils jouent comme des oufs, et le hip-hop, on ne sait pas jouer d'instrument et on arrive à faire des beats qui défoncent. Je trouve ça marrant, essayer de mélanger les deux, et ça apporte voilà, une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on peut des fois partir d'un morceau, partir sur autre chose, chose qu'on va d'ailleurs mettre plus en place à l'avenir, pour les scènes à venir, parce qu'il va y avoir un bassiste qui va venir se greffer au truc, et on n'a pas eu encore le... on l'avait déjà fait il y a quelques mois, mais disons qu'on a... Bref, on a cherché un autre bassiste, donc entre-temps de mettre le show en place, c'est un peu difficile. Donc voilà, donc en fait, ça permet vraiment de pouvoir s'évader et surtout d'aller explorer d'autres horizons, quoi. Dans la sonorité, pouvoir mettre un morceau qu'on a fait comme Tant qu'elle résonne, qui est au départ quand même une base orientale d'influence, et ben de rejouer le gimmick oriental avec une guitare électrique, ça amène une autre texture aussi, et ça amène une autre vibe qu'autre chose.
Et comme on le fait en studio, Jack il fait beaucoup appel à des musiciens aussi une fois qu'il a fait ses bases. Donc c'est vraiment bien de pouvoir pousser ce travail de studio maintenant sur scène avec Lenny notamment et Jack tout seul musicalement qui s'entendent là-dessus. Ça amène une vraie force pour faire évoluer notre musique. Il y a même pas mal d'anciens morceaux qu'on a réarrangés avec la guitare et tout ça. Donc voilà, ça je pense que ça densifie et ça donne une unité à notre univers.
Et le public, il prend ça comment? Le public hip-hop parisien
Je pense que globalement, il a été assez choqué quand même par la nouvelle identité. C'est quelque chose qui forcément interpelle, c'était le but. Et maintenant je pense qu'ils voient que l'énergie finalement est toujours la même et va plus loin, et je pense que petit à petit on va conquérir aussi ces gens-là par cette force-là. Plus nos choses seront rodées, plus on arrivera à décomplexer par rapport à ça, et plus ce sera fort. Et je pense qu'on s'est retrouvé dans des plateaux très très rap récemment. Bon, c'était des petits shows, tu vois, plutôt coup de poing, mais c'est très bien passé. Je pense qu'il y a plein de gens en plus, même dans la culture vraiment populaire rap, qui aime bien ce côté-là enragé d'un guitariste notamment. Il y a plein de mecs qui à la fin des shows viennent me voir.
Je pense qu'aux États-Unis ça dérange personne ce genre de truc. C'est vraiment
fou. Ah non, c'est clair. Non, moi ouais. Je dis ça parce que bon, là je vois, on est en Suisse et j'ai remarqué les concerts de rap ici et par rapport à ce que je me souviens moi quand j'ai grandi à Paris. À Paris, il y a quand même pas mal de monde qui venait, un, pour se montrer, deux, pour se regarder en coin et pas pour faire la fête. Ici, il y a vraiment un esprit, voilà, mais là, on s'amuse.
Ce que je veux dire, toi, le but, c'est aussi, nous, pourquoi on fait ça, c'est déjà, c'est du kiff. Et deuxièmement, c'est surtout pour, il faut dire la vérité, en France, c'est un peu un complexe de toujours sucer, de copier les Thierry, les Américains, et en plus, moins bien. Parce qu'évidemment, c'est pas la même culture. Ils ont une grosse culture afro-américaine et puis nous on n'a pas les mêmes codes, les mêmes vies, les mêmes sensibilités, etc. Donc évidemment qu'on est les premiers à s'influencer évidemment de cette culture parce que c'est la base, le hip-hop il vient de là-bas, etc. Donc évidemment, mais après aussi c'est de pouvoir mettre ta sauce à toi qui fait que c'est toi, quoi. Parce que moi quand je sors dans la rue, je vois personne avec une Cadillac et un gros pendaillé, tu vois, je vois plus d'autres gens. Donc c'est là où nous on se positionne, c'est que ça nous intéresse pas de faire la musique du voisin. Après, si je dis pas ça, c'est pas prétentieux du tout. Ça veut pas, je suis pas en train de dire que ma musique elle est meilleure que les autres. Je suis juste en train de dire que je fais la nôtre et que c'est notre identité à nous et qu'on l'assume. Parce qu'après que ça plaise pas aux autres, et ben c'est pas grave. Moi, ce que j'aimerais juste, tu vois, c'est que j'aimerais juste que le milieu hip-hop en général s'enlève vraiment les doigts qu'il a dans le cul. Ce serait vraiment bien. Je pense pour la musique en général. Je pense que le jour où les mecs arrêteront de se regarder le nombril et justement se regarder, genre style, est-ce que lui c'est une racaille, alors, je vais regarder s'il me regarde ou quoi. Peut-être qu'une fois qu'on aura dépassé ce stade-là, à avoir peur du regard de l'autre, à savoir si toi tu as des textes plus durs que l'autre, qui est le plus hardcore et tout. Je pense que déjà, surtout, on parlera de musique et je pense que la musique c'est sa vie et qu'il faut que ça vive, quoi. Et en France, sa vie, il y a beaucoup de groupes qui le font, mais il y a aussi beaucoup trop de groupes qui le font pas.
Puis surtout ce que disait Jack, c'est ce qui est important, c'est de... Quand tu fais de la musique, c'est quand même d'avoir un son, d'avoir une identité musicale. Et ça, nous, c'est ce qui nous manque. Souvent, on en parle chez des groupes de rap français. C'est que tu as très peu, finalement, de groupes qui ont une discographie que tu reconnais tout de suite par la musique, au même titre qu'un Gangstar, qu'un Wu-Tang, qu'un Tribe Called Quest, des groupes comme ça. Tu mets le premier, le troisième, quatrième album, c'est du Tribe Called Quest, quoi. Il y a une direction. Par exemple, dans l'éclectisme musical de Jack, sans, comme il dit, être prétentieux ou quoi que ce soit, mais il y a une direction. Moi, dans mes textes, maintenant, je commence à trouver vraiment ma direction. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est-à-dire Kalash, au final, tout le monde n'aimera pas, ça c'est évident. Mais j'aimerais, tu vois, qu'au fur et à mesure de notre discographie, les gens se disent, putain, ils ont amené un univers, un délire à eux, et ils avaient vraiment leur ligne de conduite, quoi.
Alors, justement, on va parler un peu parole maintenant. Et ouais. Donc, vous êtes un groupe politique, politisé, engagé. On parlait racaille, moi j'ai l'impression que, par rapport à quand j'étais tout petit, la proportion de paroles politiques dans le rap, elle a quand même sacrément dégringolé. Bah, et que maintenant, entre bon, la pop délire à TTC, le bling bling à Booba, de la politique, il en reste plus beaucoup en proportion.
Non, c'est non.
Alors,
mais c'est un reflet, c'est un, tu vois, quand tu prends, plus moi je m'intéresse pour la musique, notamment le rock et tout ça, plus tu vois que la musique c'est vraiment un reflet de la société. À laquelle on vit tout ça. Quand tu vois tous les Bob Dylan, les Jimi Hendrix, tous ces mecs-là, ils étaient le reflet d'un combat contre le Vietnam, d'une espèce d'époque hippie où les gens voulaient vraiment réfléchir, où il y avait cette envie, cette utopie de changer le monde, tout ça. Donc maintenant, c'est un petit peu normal. On est dans une période, on le voit avec les élections qui arrivent, tout ça, où c'est pas vraiment la grande... Si tu veux, je le vois même autour de moi, enfin, des gens tout le temps, j'ai l'impression que réfléchir, ne serait-ce que réfléchir, des fois, c'est un peu... ça devient limite has-been, tu vois, c'est limite un truc, je crois que c'était, il y avait un magazine qui avait fait un peu un truc sur la guerre à l'intelligence, mais on est un peu dans une période comme ça, où faire le con, regarder des émissions débiles, faire des trucs débiles, c'est marrant, c'est super, on s'éclate, mais quand tu commences à, je te dis, t'intéresser à des problèmes, à vouloir parler de certaines choses, ça commence à, ça dérange, ça ennuie, quoi. Donc il y a ça, et le rap est le reflet de ça, quoi. C'est-à-dire que ce qui vend des disques, c'est plutôt effectivement un Booba qui va dire 2-3 conneries plus ou moins bien dites d'ailleurs. Bon, il peut avoir des formules, mais en substance, c'est quand même énormément vide. Et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui vend, donc c'est ça qui plaît aux gens. Donc peut-être que ça te démotive aussi, tu vois, on fait tous partie d'une émulation. Je pense qu'il y avait un groupe militant tout d'un coup qui se mettait à vendre 300 000 disques. C'est un classique, t'en aurais 25 derrière qui suivraient.
Franchement, c'est comme les modes, hein, à l'époque où c'était entre guillemets le rap conscient qui était un peu, tu vois, un peu le vent en poupe et tout, tout le monde essayait de faire ça. Quoi.
Ouais, c'est
maintenant, tout le monde, maintenant c'est le rap de Kaira, tout le monde veut faire.
Après, le rap, au tout début, il n'est pas que militant non plus, tu vois. Il est très funky au départ. Après, il a sa grosse vague militant enclenchée par Public Enemy et des groupes comme ça. Donc voilà, comme je disais dans un truc que j'ai fait avec Dynasty là, les courants se suivent et les problèmes demeurent, tu vois. Je pense que, donc, de toute façon, nos paroles, nous, elles changent pas la face du monde, mais je pense que les courants suivent, que ça va revenir. Ça va revenir parce que, notamment, par exemple, si en France, t'as un Sarkozy qui se met à arriver au pouvoir, je pense que des choses que nous, on rabâche depuis maintenant 10 ans à travers Kalash, d'autres gens comme La Rumeur peuvent le faire, je pense que tout d'un coup, il y a des gens qui vont se dire, et notamment la jeunesse, putain, ouais, c'est vrai que, tu vois, on les montre un peu du doigt, machin, mais on se retrouve dans une pseudo-dictature camouflée en démocratie. On aurait peut-être mieux fait de se battre un peu, quoi, et d'être ensemble, soudés, avec un combat, avec des idées et tout ça. Donc je pense qu'à un moment, notre musique, elle sera le relais de mouvement. Simplement, il faut être là au bon moment, il faut toujours suivre. Nous, à chaque fois qu'on nous appelle dans des concerts de soutien, on essaie d'y aller. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut garder, quoi, d'essayer de relayer ça.
Et justement, donc là, ce show-là, il va passer en avril, forcément. Il y a eu quelques rappeurs qui sont réveillés au niveau des inscriptions sur les listes électorales. Tu parlais de Sarkozy, la musique qu'attend Sarko, fusil à pompe sous les platines. Donc on peut espérer que vous n'allez pas voter Sarko. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui reste ?
Mais il reste pas grand-chose, c'est ça la grosse problématique. Et c'est que j'entends un peu Jack tiquer là, comme il disait, il y a des rappeurs qui... C'est-à-dire que le problème, c'est que ce qu'on voit en ce moment, on voit une campagne diligentée par le PS pour faire voter les jeunes des quartiers, en sachant très bien que majoritairement avec une campagne comme ce qu'il y a eu sur des radios parisiennes, etc., ils iraient pas voter pour Sarkozy. Et bon, moi, je me retrouve pas du tout dans ces mouvements-là, parce que c'est vrai que si tu dis qu'est-ce qui reste, ce qui est en face, ça fait peur aussi, tu vois, et c'est toujours le problème. Moi, je pense que dans l'obligation, et comme une fois de plus, je pense que j'irai donner mon cul à voter Ségolène, parce que là, on n'a vraiment pas le choix, je pense que j'en arriverai là. Mais franchement, je le ferai avec aucune envie, aucun... Il y a dans les gens que je vois se présenter, il n'y a pas quelqu'un où je me dis, tiens, ça y est, il y a le truc. Ou quand il y a quelqu'un, de toute façon, tu te dis, voilà, il va faire 3%, et il n'a peut-être même pas envie de prendre le pouvoir. Enfin, tu vois, il y a un gros problème par rapport à ça.
Moi, je suis encore en réflexion, hein, même pour voter, enfin, c'est tellement ce que tu dis, quoi.
Après, c'est où sinon tu... Ouais, enfin...
Tu vois,
t'es toujours dans le questionnement par rapport à ça. Après, tu le fais par rapport aussi... Enfin, moi, je crois beaucoup en cette notion du droit et du fait que ce droit-là du vote, il a été conquis durement et que si on retourne, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux gens qui se réveilleront quand on aura un Sarkozy, ce sera encore pire quand des gens se réveilleront quand il y aura une dictature. Donc, on a le droit de vote. Des gens se sont battus pour ça. Je vais respecter ce droit-là. Mais après, je vais pas aller faire campagne pour quelqu'un, ça, à l'heure actuelle, ça me semble pas possible.
Donc on parlait de La Rumeur, justement, bon, qui est un des rares groupes politiques qui est assez écouté largement. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment en rap français et en rap américain ? Dans quoi vous vous retrouvez dans la scène vraiment actuelle, quoi ?
Moi, je vais être hyper, hyper honnête, j'écoute pas de rap en ce moment. Je vais être honnête, j'écoute pas de rap. Quoi. Donc...
Après, dans ce que je me retrouve, dans là où je peux me retrouver en rap français, ça va être plus du Oxmo, ça va être dans la démarche, en tout cas, Abdelmalik, dans la démarche, je dis bien, ça va être Abdelmalik et un mec comme Rossé. C'est des gens qui me plaisent dans la démarche côté alternative, etc. Aussi de faire mon self-public, faire de la musique avec le cœur, etc. Ça, c'est tout ça que j'aime bien. Et Oxmo aussi, parce que voilà, c'est quand même un artiste qui a une très belle plume. Et après, en Carrie, moi, je suis vraiment resté bloqué à une époque, je crois. Faut voir que... non, mais c'est vrai, je suis resté bloqué, quoi. Les gangstars, les trucs, toute cette époque, je suis resté bloqué. Moi, j'écoutais les trucs qui plus barrés, quoi, avec Narc Barclay, mais bon, en même temps que c'est pas venu barré maintenant, plus
vu que
ça fait. Mais sinon, moi, j'ai du mal avec le crunk. Ça me fait délirer quand je vois des reportages, vraiment, quand c'est là-bas, justement, je trouve que c'est mortel, parce que tu sens encore un truc, une effervescence, un truc assez énorme. Mais j'ai du mal à en écouter, j'ai du mal à ressentir la vibe de la musique, j'ai un peu du mal avec tous les sons super synthétiques, j'ai du mal. Je préfère un son, je préfère les sons plus barrés, quoi, synthétiques, c'est-à-dire quand c'est sans vraiment le truc tech barré, ou des trucs à la Madlib, quoi, vraiment plus barré, quoi. Ça me saoule quand c'est juste pour bounce. Mm-hmm. Mais c'est des goûts, hein, frère, c'est vraiment des goûts, c'est personnel, quoi.
Bah moi j'écoute pas beaucoup de rap non plus en ce moment, mais je garde quand même quelques personnes, même dans le très crossover, par exemple quelqu'un comme Jay-Z, immanquablement à chaque fois il me fait kiffer.
Ouais,
quelqu'un comme Ghostface qui est là, je trouve que c'est un dernier, t'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est un dernier des Mohicans en termes de MC, c'est
vraiment
des. Nex, qui est avec nous sur scène, un grand rappeur américain. Non mais et bien sûr toute la scène californienne. Des Madlib, des Dungeon Mouse, tout ça, moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Tous ceux qui tendent aussi à barrer vers des mélanges avec l'électro, etc. Il y a des choses très intéressantes, quoi. Après c'est vrai qu'il faut fouiner, et puis moi j'écoute beaucoup d'autres choses aussi en ce moment, quoi.
On découvre plein de groupes, quoi. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir rencontré Lenny qui a un autre univers musical, il nous fait découvrir plein de groupes de... C'est mortel, hein,
découvrir d'autres. Même au rock, quand t'es passé à côté, tu vois, enfin moi je sais que j'y suis venu vraiment sur le tard, donc je rattrape, tu vois, tous les fondamentaux, on va dire que cette année, les trucs qui m'ont choqué, c'est vrai que c'est plutôt les Clash, Led Zeppelin, les Beatles, j'ai eu ma grosse période Beatles, tu vois, classique parmi les classiques, mais quand tu t'y trouves, quand tu tombes là-dessus tout d'un coup, et David Bowie, tu vois, des trucs comme
Velvet
ça.
Velvet Underground,
on pourrait continuer comme ça. Un moment, mais c'est vrai que ça m'a bien, tous ces mecs-là m'ont bien fait bloquer ces derniers temps dans la musique et dans justement, quand tu parlais d'époque et de désir de tout casser, c'est quand même des gens qui sont allés assez franchement, quoi.
Là, donc je viens d'apprendre que c'est pas votre première fois en Suisse. Comment ça s'est passé les dernières fois? Est-ce qu'il y a une différence avec la France?
Ouais, clairement.
En termes de public ou...
Ouais, il y a une différence entre la France, c'est que, comme tu disais, dans l'esprit de fête et tout, c'est beaucoup plus relâché. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Après, il y a aussi une autre différence avec la France, c'est que, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que des fois, c'est comme il y a des choses qui... On a l'impression qu'il ne faut pas les choquer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu comme ça.
Il ne faut pas aller trop loin.
Voilà. Il y a une sorte de truc, quoi, à un moment, dès que c'est... Ouais, c'est ça, c'est reflet. Non, mais c'est pas les Suisses, mais c'est vrai que... Paname, il y a le côté tu bouges pas et tout, mais je pense que tu peux en envoyer plus de trucs qui vont peut-être moins choquer, peut-être qu'en Suisse, je sais pas.
Ici surtout, donc, c'est quand tu vois toutes les dates qu'on a fait en Suisse, à part et même pareil, le Caribana Festival, mais on a fait que des premières parties de groupes beaucoup plus en place.
Ouais. Et on n'est pas arrivé.
Voilà, on a fait Gangstar, The Roots, des groupes comme ça. On n'est pas arrivé du tout de la même façon qu'en France, ou quand on va en province, ou à Paris, ou machin. C'est vraiment des gens qui ont déjà nos disques. À part à Genève, parce que ça faisait déjà.
Et c'était
trois
une
fois
de nos meilleures. C'était une de nos meilleures.
Ça se fait super date.
En fait, c'est ça. Et encore surtout pour faire mon jeu, je veux dire que c'était sans démagogie aucune. C'est l'endroit.
À Genève, ça a été.
Et encore plus la Suisse allemande, quoi.
Ouais, bah de toute façon, moi je suis pas suisse, c'est l'américain qui écoute, donc...
La Suisse allemande, je sais que c'est pareil, je sais que le public suisse allemand, c'est quand même...
Ils ont l'air vachement ouvert au rap francophone. C'est justement donc dans la presse gratuite locale du matin, il y a Booba qui s'est tapé avec un de ses spectateurs, et donc maintenant, en fait, il semblerait que les salles locales veuillent plus de rap engagé. Bon là ils sont mal tombés avec Kalash, hein. En tout cas ça a l'air de concerner les docs. Comme quoi il y a peut-être effectivement... Non mais alors justement, ils ont l'air de mélanger rap gangsta et rap politique.
D'accord.
Ouais justement, en termes de désengagement,
dans la merde.
Voilà, on fait le papier. Mais bon, comme quoi, c'est le genre de papier que bon, moi je voyais ça en grandissant à Paris, ben voilà, maintenant ça arrive ici, donc ça je vous laisse,
c'est
article édifiant,
superbe.
Puis ouais, les projets donc de Kalash, là il y a le maxi.
Les projets donc tu as eu sûrement ce maxi, et qui est sorti le 28 novembre, et il y a surtout le gros morceau là qu'on va défendre qui sort le 17 avril, qui est une compile album qui s'appelle À l'aurore du comeback, où donc on va retrouver pas mal d'inédits, un bon gros morceau d'inédits, des remixes par d'autres producteurs, des morceaux de notre premier album et même des morceaux pas encore sortis qui ont déjà été remixés, et toutes nos galettes aussi qui sont sorties en vinyle et qui sont jamais sorties en CD. Donc voilà, c'est vraiment, et c'est un disque qui a été conçu dans son track listing et dans son évolution comme un album. Il y a de l'impro aussi dedans, des séquences d'impro radio, tout ça. C'est vraiment une sorte de melting pot, mais qui est conçu comme un album, quoi. Écoutez, de A à Z, c'est pas un street CD, c'est pas un fourre-tout de freestyle. Et nous, c'est un disque qui nous plaît beaucoup, donc on va défendre déjà comme un gros morceau. Et ensuite, il y a le deuxième album vraiment de Kalash qui arrive en fin octobre, je pense. Donc voilà, ça fait une année assez chargée pour nous.
Un petit mot donc juste en français pour les Américains. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un Américain qui tombe sur cette émission et qui tombe sur Kalash?
Listen one, where is Brian? Brian in the kitchen.
C'est un truc en américain qu'il faut dire.
Non, juste en français.
Non, c'est bon, j'ai envie de dire que nous on est parti, nous là sur le peu d'expérience qu'on a eu avec les Kings, et on a kiffé puisqu'on est parti à Los Angeles enregistrer le premier album. Et en plus il y a un ami à moi qui habite là-bas qui s'appelle James Russard qui fait des guitares, qui est luthier pour des grands noms comme Keith Richards et autres. Et moi je sais que voilà, moi je leur dis soyez aussi ouverts que nous on peut l'être sur votre culture. Et je pense que nous on a fait un featuring avec le guitariste des Roots dernièrement et c'est un mec super ouvert et tout. Et c'est vachement marrant, il arrive en studio, il demandait à connaître des titres de Gainsbourg, on lui a parlé de plein de trucs et tout, il connaissait déjà. Mais je pense que c'est bien aussi que des fois ils essayent, en tout cas je parle de la masse populaire américaine, parce qu'évidemment il y a des gens qui sont très très branchés musique et qui s'intéressent à tout comme dans tout pays, mais je veux dire qu'ils essayent un peu plus de s'ouvrir au monde en général au niveau musical. Je pense que il y a beaucoup beaucoup de hip-hop dans le monde et vu l'honneur qu'on leur rend à travers cette musique justement en l'acceptant et en la vivant chaque jour, je pense que ils seraient que gagnants à peut-être des fois venir plus souvent dans des pays, faire des concerts, des prestations, et aussi peut-être plus partager aussi. Parce que peut-être un peu un manque de partage, et je pense que c'est important la cycle de partager. Et voilà, sans donneur de leçons, moi c'est juste pour la vibes, quoi, la musique.
Ouais, non mais moi je suis d'accord avec Jack, moi musicalement, les expériences qu'on a eues, comme il dit que ce soit, moi j'étais allé aussi à San Francisco, je veux dire, c'est tellement énorme musicalement, que je vois pas trop ce que je pourrais amener à un Américain, par exemple, qui fait du hip-hop. Par contre, je pense que politiquement notamment, et dans plein d'idées de pensée et de réflexion, je pense que ça peut être pas mal qu'ils s'inspirent un peu de l'Europe et qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls sur la planète Terre, qu'ils s'inspirent aussi de l'Orient, de l'Afrique, etc. Voilà, qu'ils soient aussi ouverts dans ce sens-là, quoi, du côté de la tronche et de ce qu'ils ont dans le cerveau.